Chers amis, chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons notre série concernant, concernant la victoire finale. Et cette série est importante, très importante. Aussi, avant de commencer une étude aussi importante et celles qui vont suivre, j'ai besoin de remettre entièrement entre les mains de mon Sauveur et Seigneur. La Bible dit en 1 Corinthiens, au chapitre 1, verset 25 et verset 27 à 28. La folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, oui, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Et Seigneur, je te demande de me sanctifier davantage, de purifier tout mon être, car j'aimerais de plus en plus être esclave d'amour pour toi et pour mon Père céleste, et cela pour l'éternité. Merci de permettre que le Saint-Esprit puisse s'emparer de moi maintenant pour conduire, pour m'inspirer tout au long de cette étude qui sont de plus en plus difficiles, mais profondes, importantes pour la fin de cette dispensation de grâce que nous savons que nous avons déjà commencé, que tu as commencé, la dispensation des jugements, les tremblements de terre, les inondations, les sécheresses fabuleuses et tout le reste, le pire est à venir. Chers amis, nous devons être les dépositaires de la gloire de Dieu. Le Seigneur dit, « Mon peuple doit désirer plus que jamais ma gloire pour l'Église. Mon peuple doit le rechercher désespérément, et cela avant que la situation mondiale ne les rende désespérés, voire même impossibles. » Je réfléchissais à ces paroles dans la présence du Seigneur. Je connaissais la valeur de notre acharnement. On a parfois l'impression que Dieu n'agit dans nos vies que lorsque nous le cherchons désespérément. Chers amis, quelle est cette gloire à laquelle nous devons aspirer? Le Seigneur faisait allusion à la promesse donnée dans Agée, au chapitre 2, versets 7 et 9, où il est dit « Et je remplirai cette maison de gloire, dit l'Éternel des armées. » La dernière gloire de cette maison sera beaucoup plus grande que la première, dit l'Éternel des armées. Et dans ce lieu, je donnerai la paix, nous dit l'Éternel des armées. Cette cette parole prophétique a été donnée pendant la construction du deuxième temple, dont la gloire ne dépassa jamais, jamais, celle du temple de Salomon. Le peuple était revenu à Jérusalem au bout de 70 ans de captivité. Le pays, le temple, la ville avaient largement été dévastés. Pourtant, le Seigneur promet une grande gloire pour un temple à venir. Il ne pouvait s'agir du temple de la reconstruction, alors de quoi s'agissait-il ? Oui, de quoi s'agissait-il ? Le Seigneur établissait un parallèle avec un autre temple dans les derniers temps. Oui, un temple qui lui aussi serait dans un état de désolation à cause d'une autre captivité babylonienne spirituelle, celle-là. Le Seigneur se servait des yeux d'Agée pour voir un temple de pierre vivante dont le fondement avait été perdu pendant des siècles. Ce fondement perdu, c'était la vérité, c'était celle du salut par grâce, par la foi en Jésus-Christ et non pas nos œuvres charnelles. Il voyait les vérités fondamentales restaurées petit à petit et ce temple devenu une maison de gloire et de paix. En effet, comme nous l'avons déjà vu, il ne peut y avoir de gloire là où il n'y a pas la paix. Le Seigneur considérait l'ère à venir de l'Église. Notre première maison dans l'ère de l'Église fut l'Église primitive. Et Dieu promet, qu'est-ce qu'il promet ? Il promet que l'Église, de la fin des temps, connaîtra une plus grande gloire que l'Église primitive. C'est merveilleux, merci Seigneur. Cette promesse nous a été faite à nous l'Église, mais cela n'annule pas la promesse pour Israël restaurée et le temple du millénium tel que nous le voyons dans Ézéchiel. Nous ne devons pas laisser l'Église remplacer Israël dans les promesses qui lui ont été données à lui premièrement. Mais au sens spirituel, nous pouvons les partager, car pour nous, toutes les promesses sont oui et amen. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20. L'accomplissement de cette promesse de gloire, elle doit être attendue, il doit être recherché. Dieu agit sur cette terre au moyen de la prière. C'est donc à nous de lui donner ces moyens-là. Zacharie nous donne le conseil suivant, et cela dans Zacharie, chapitre 10, verset 1. Demandez à l'Éternel de la pluie, au temps de la pluie de la dernière saison, et l'Éternel fera des éclairs, et il leur donnera des ondées de pluie, et cela à chaque de l'herbe dans son champ. En effet, plusieurs points ont ici leur importance dans ces versets. Premièrement, nous devons demander afin que le Seigneur puisse donner. Cette pluie, quoique prophétisée depuis longtemps, nécessite notre prière assidue et ardente afin de se manifester sur la terre. La demande doit correspondre au cadre, au temps et aux autres signes prophétiques. Je crois que nous sommes précisément dans ces temps-là. Deuxièmement, le Seigneur fera des éclairs, des nuages lumineux, selon certaines versions bibliques, ce qui parle de grande gloire, accompagnant l'action de l'Esprit de Dieu. Je prends des fois des Nouveaux Testaments tels que la Schlachter et beaucoup d'autres qui sont intéressantes. Et troisièmement, chers amis, cette pluie de l'arrière-saison sera mondiale. Elle sera d'une portée étendue multinationale. À chacun de l'herbe dans son champ, oui, cela indique pour chaque âme sur la terre. Ésaïe dit, toute chair est de l'herbe, et le champ indique le plus souvent la terre entière. Nous savons que le monde entier ne sera pas sauvé, mais, il sera entièrement affecté. Nous devons le demander, avec acharnement, pour que Dieu agisse avec puissance et majesté. Nous devons être écœurés, dégoûtés des blasphèmes qui nous environnent, et nous devons réclamer à grands cris que Dieu soit exalté. La gloire à venir n'est pas une démonstration extravagante du surnaturel fait pour épater les habitants de la terre. Non. Son but va bien au-delà d'un effet de choc. Cette gloire est quelque chose qu'il est indispensable d'avoir pour survivre dans cette période de l'histoire. La gloire, c'est la présence personnelle de Dieu. Zacharie, chapitre 2, verset 5. Je serai une muraille de feu autour de vous et une gloire au milieu de vous. Elle est la visitation de la personne même de Dieu le Père au milieu de nous. Elle est manifestée comme elle ne l'a jamais été, ni même imaginée auparavant. Nous avons toujours aujourd'hui des problèmes et des circonstances que l'apôtre Pierre n'aurait jamais pu imaginer. Il existe actuellement un vent mondial de folie. Folie aggravée et encouragée par une société rendue folle par des drogues. Les gens sont totalement désensibilisés affectivement, exactement comme l'avait prédit l'apôtre Paul dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 3. Ils sont sans affection naturelle. Ils sont implacables, ils sont calomniateurs, cruels, n'aimant pas le bien. Les crimes de violence font de plus en plus couler le sang. Encore, je crois, je ne sais pas si c'est ce matin ou hier soir, eh bien, un homme encore jeune a tiré sur tout ce qui bouge. À une jeune femme, il a carrément tiré dans la tête. D'autres sont morts et à l'hôpital entre la vie et la mort. Et il ne sait même pas pourquoi il a fait ça. Mais nous devrions, vous et moi, savoir pourquoi il a fait ça. Ce sont les démons qui se manifeste de plus en plus à la fin de cette époque et qui inspire, qui influence des gens qui ne savent même pas ce qu'ils font. et nous en sommes là, là où était le monde au temps de Noé. Car, si vous relisez attentivement pour ceux qui encore croient à la Sainte Bible, eh bien, au temps de Noé, la terre était corrompue devant Dieu et la terre était pleine de violence, selon la Genèse, chapitre 6, verset 11. Jésus a dit que les choses se passeraient à nouveau comme au temps de Noé. Il nous faut la gloire de Dieu, il nous faut son feu protecteur pour nous garder au milieu de tellement de violence. Des épidémies de sida, d'Ebola, qui déciment des villages entiers. Il y a des fléaux, le fléau du crack et de toutes nouvelles drogues pires que le crack, qui a très vite semé la confusion dans beaucoup de villes. Ce qui est particulièrement tragique, et c'est le fait que ces fléaux viennent de nous-mêmes. Oui, de nous-mêmes, le plus souvent, c'est nous qui nous les infligeons à nous-mêmes. L'Amérique, comme l'Europe, est remplie de sa propre déchéance. Nous devons donc rechercher désespérément la gloire de Dieu, et cela avant que la situation ne nous rende désespérés. Il reste à faire un grand travail, un travail bien plus grand encore, et pour cela il nous faut une bien plus grande onction. Avez-vous entendu? Il nous faut une plus grande onction de quoi? Mais du Saint-Esprit. Jésus a donné un signe de la véritable fin, de la fin des temps. Il l'a donné dans Saint Matthieu, chapitre 24, verset 14. Il est dit dans la Schlachter, cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier en témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Jésus ne reviendra que lorsque toutes les nations, au sens biblique et non politique, auront reçu le témoignage de l'Évangile. Selon la Sainte Bible, une nation est faite de tous les groupes de la terre, comprenant les familles, les langues, les tribus, et le peuple à l'intérieur de chaque frontière nationale et politique. Les statistiques données par différentes organisations missionnaires sont d'accord pour estimer qu'il en existe environ 20 000 sur la Terre. Tous des groupes de différentes cultures ayant besoin d'être touchés indépendamment les uns des autres. Chaque peuple, enfermé et isolé des autres par sa culture propre, doit avoir ses messagers appelés et préparés pour lui, par Dieu. Les gens ne rejettent pas forcément le message de l'Évangile, mais ils rejettent plutôt ces messagers non qualifiés, qui dès lors ne réussissent pas à les toucher. Quoiqu'il existe environ 20 000 peuples de différentes cultures, seulement 3 500 à 4 000 ont entendu l'Évangile dans ces 21 derniers siècles. Il nous faut donc davantage de puissance. Le travail se fera, oh oui, le mandat sera accompli. Dans Apocalypse, dit Offenbarung, chapitre 7, verset 9, l'apôtre Jean voyait une foule innombrable de toutes nations et tribus et peuples et langues. Alléluia! Que notre génération puisse être celle qui ouvre le chemin. Nous devons réclamer à grands cris que la gloire du réveil vienne sur nous, sur toute chair. Nous avons désespérément besoin de Dieu, mais il en a trop, trop parmi son peuple qui se laisse percer par l'esprit du monde, ne reconnaissant pas le danger grandissant en silence, tandis qu'il dorme encore sur les deux oreilles. La gloire, chers amis, elle vient comme un feu. Que Dieu nous rende conscients de notre besoin, et cela pour sa gloire. Mais lorsque cela viendra, attention, saurons-nous à quoi nous attendre? Ce que nous demandons, c'est le feu qui détruit les scories. Cela n'est pas honnête. Pas du tout honnête de demander le feu du réveil pour purifier les pécheurs, alors que nous, enfants de Dieu, ne marchons pas dans une parfaite pureté. Je répète, cela n'est pas tellement honnête de demander le feu du réveil pour purifier les pécheurs, alors que nous, wir zusammen, enfants de Dieu, ne marchons pas dans une parfaite pureté. La gloire doit d'abord se lever sur nous, son peuple. Et c'est pour cette raison que la venue de la gloire de Dieu est précédée par un temps de purification. Cette œuvre de purification du Saint-Esprit, c'est le jugement qui commencera dans la maison de Dieu. Cela est prophétisé à deux reprises particulièrement importantes. Notez Malachie, chapitre 3, versets 1 à 3. Veuillez, s'il vous plaît, lire dans vos Bibles à vous, tranquillement, ces versets, Malachie, chapitre 3, versets 1 à 3. Il est question de l'œuvre purificatrice du Saint-Esprit parmi les Lévites spirituels. Nous voyons un aspect de cette purification dans les Évangiles lorsque Jésus rentra dans le temple, et là, il avait un fouet à la main pour chasser ceux qui profanaient la maison de son père. C'est là un exemple de sa colère face au péché non confessé dans notre propre vie. Il veut le chasser hors de nous, oui, nous qui sommes le temple de Dieu. Nous devons être préparés. Nous devons être prêts pour la gloire promise. L'Écriture sainte pose la question : qui pourra subsister ? La gloire de Dieu, c'est elle sa parfaite sainteté. Moïse décrit la gloire de Dieu sur le mont Sinaï comme étant un feu dévorant, mais ce feu se répand pour dévorer ce qui est impur. Le vice, par exemple, non abandonné, le péché caché. La sainteté est l'un des attributs immuables de Dieu. Mais les seules personnes et les seules assemblées pouvant faire l'expérience de la gloire de Dieu seront celles, oui, ce seront celles qui supporteront cette ardente gloire. Ésaïe, chapitre 4, verset 3 jusqu'au verset 6, nous dit « Le résidu en Sion et le reste dans Jérusalem sera appelé saint. Oui, quiconque sera écrit parmi les vivants dans Jérusalem, quand l'Éternel aura nettoyé la saleté des filles de Sion, et aura lavé le sang de Jérusalem du milieu d'elles par l'esprit de jugement et par l'esprit de consomption. Et l'Éternel criera sur chaque demeure de la montagne de Sion et sur ses assemblées une nuée et une fumée de jour, de la splendeur d'une flamme de feu la nuit, car sur toute la gloire il y aura une couverture, et il y aura un tabernacle pour ombrage de jour, contre la chaleur tout d'abord, et pour abri et pour refuge contre l'orage et contre la pluie. Depuis près de 30 ans, j'ai souvent lu ces versets avant de pouvoir vraiment les comprendre. Ce passage nous dit que quiconque restera, quiconque persévérera, sera appelé saint. Écoutez bien, parce que tout le monde ne va pas aimer ce passage. Ce passage que nous citons nous dit clairement que quiconque restera, c'est-à-dire quiconque va persévérer, continuer d'être fidèle, être sanctifié, sera appelé saint. Beaucoup failliront lorsque le feu purificateur commencera de brûler les scories au milieu du peuple de Dieu. Nous avons vu dans Malachie, au chapitre 3, la comparaison de la purification des fils de Lévi avec celle de l'or. Écoutez bien, il y a une bonne raison pour cela, car l'or, elle se trouve dans des minerais ayant un point de fusion moins élevé que celui de l'or qui est de 1063 degrés. Ceci le place bien plus haut que les substances environnantes et le moyen de purifier l'or est donc la fournaise. Au contact du feu, tout se met à fondre et se dégage avant que l'or ne soit atteint. Et cela donne une image des pressions, des épreuves, envoyées comme du feu pour nous, vous et moi, pour nous rapprocher de Dieu. Nos matériaux fondent très rapidement, mais l'or de Dieu en nous demeure inchangé. Ce feu purificateur est mentionné une fois de plus dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 7. Là, il est dit que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que celle de l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Le feu œuvre afin de nous séparer des alliages. L'or symbolise la sainteté de la nature divine de Dieu venant remplir notre être tout entier. Dans notre vie nouvelle, ce vase que nous sommes contient encore certains éléments de notre ancien mode de vie et j'en sais quelque chose, malgré mon grand âge. Or Dieu a besoin de vases purs et sanctifiés. L'or nous parle de la mesure de la présence de Christ en nous. Elle nous parle du degré de notre sanctification. Je répète, l'or nous parle de la mesure de la présence de Jésus-Christ en nous. Elle nous parle du degré de notre sanctification. Ces choses déterminent le niveau de gloire que peut contenir notre vase. Dans le temple de l'Ancien Testament, tout ce qui entourait l'arche était recouvert d'or le plus pur. L'arche et le propitiatoire qui étaient au-dessus représentaient Dieu et son trône. Nous sommes appelés à recevoir en héritage ce trône de gloire. 1 Samuel, chapitre 2, verset 8. De même que l'or était nécessaire à l'arche, le peuple qui se prépare à la présence de Dieu doit être fait d'or. Seul un tel peuple subsistera dans le feu de sa glorieuse sainteté et pourra supporter sa présence continue. Pour cette raison, nous devons être transformés de gloire en gloire. Oui, c'est pour lui, car il est notre époux. Il nous veut dans son sein, dans son étreinte, parce que notre époux divin est un feu dévorant. Il nous exhorte maintenant, oui maintenant, à rechercher une pureté qui pourra non seulement supporter son étreinte, mais qui s'en réjouira. Ésaïe, il dit que quiconque restera ou quiconque continuera avec le Seigneur sera appelé saint. Dieu s'est engagé à mener à bien l'œuvre commencée en nous, mais c'est à nous de continuer et de ne pas nous relâcher. Je répète, c'est à nous, à vous et à moi, de continuer et de ne pas nous relâcher. L'Église était comme une chandelle dont la mèche était périlleusement basse, sauf dans quelques cœurs isolés pendant les 1000 ans, ces 1000 ans de l'âge des ténèbres. Et elle est devenue ensuite comme une lampe pendant les réveils de la Réforme. Et elle a pris l'éclat d'un projecteur de stade pendant les réveils charismatiques. Mais l'Église doit maintenant s'apprêter à diffuser une lumière d'une telle intensité qu'elle pourrait être comparée à un rayon laser. Les murs de notre âme sont donc en train d'être restaurés afin de pouvoir soutenir une telle force de gloire et de sainteté. Oui, la présence même de Dieu, elle est là. Chers amis, Dieu nous demande d'aspirer avec acharnement à cette gloire. Il est intéressant de remarquer que d'après la prophétie d'Ésaïe, la gloire de Dieu serait un refuge et une protection pour nous. Aussi difficile que puisse paraître notre préparation à sa gloire, cette difficulté n'est rien, absolument rien, comparée à celle d'essayer de survivre sur terre dans les temps à venir sans cette gloire. Je répète, aussi difficile que puisse paraître notre préparation à sa gloire, cette difficulté n'est rien comparée à celle d'essayer de survivre sur terre dans les temps à venir sans posséder cette gloire. Seuls ceux qui se soumettent à la purification pourront subsister face au feu de la gloire de Dieu. Nous avons tout lieu de penser que la manifestation de la gloire sera à l'heure de la persécution au nom de la justice. Écoutez un peu ceci. Jésus a parlé du temps de la trahison où les frères se livreront l'un l'autre. Dans son sermon sur la montagne des Oliviers, il l'a dit dans Saint Matthieu chapitre 24 verset 10. Jésus a dit, et alors plusieurs seront scandalisés et se livreront l'un l'autre et se haïront l'un l'autre. Je crois que ça vaut la peine de répéter cela. Écoutez attentivement. Jésus a parlé du temps de la trahison où les frères et sœurs se livreront l'un ou l'une l'autre. Dans son serment sur la montagne des Oliviers, il l'a dit dans Saint Matthieu, chapitre 24, verset 10. Il a dit, « Et alors plusieurs seront scandalisés et se livreront l'un l'autre et se haïront l'un l'autre. » Pendant ce temps de purification qui est le jugement de la maison de Dieu, le but sera de corriger le corps qui est appelé par son saint nom. Beaucoup se retireront, refusant la correction, parce que pendant de longs siècles, certaines pratiques n'ont jamais été corrigées. Beaucoup mettront sur ce mouvement l'étiquette du fanatisme. Dieu nous met en garde sur ces événements dans le psaume chapitre 50, verset 21, où il est dit « Tu as fait ces choses-là, et j'ai gardé le silence. Tu as estimé que j'étais véritablement comme toi, mais je t'en reprendrai et je te les mettrai devant les yeux. » Le jugement venant sur l'Église n'a pas pour but de blesser l'Église, mais a comme but de l'aider, alléluia, de l'aider en la corrigeant. Dieu la placera à l'intérieur de son ordre divin. Mais plusieurs seront scandalisés, a prédit cela. Il l'a dit, il l'a prédit Jésus sur le mont des Oliviers. Cela veut donc dire que beaucoup vont s'éloigner, vont rétrograder. La persécution, la pire, elle viendra. Et je suis triste de vous l'annoncer. Elle viendra surtout des frères et sœurs, ceux qui s'éloigneront, persécuteront, tous ceux qui persévéreront, ceci sera épouvantable que vous le croyez ou non. Je ne dis pas que vous devez le croire, mais essayez de vérifier dans vos saintes Bibles. Ce temps de tribulation sera celui de Gethsémané pour ceux qui sont déterminés à suivre Jésus. J'espère que vous savez ce que ça veut dire, Gethsémané. Ce sera un temps de rupture quand la vie de Christ contenue dans nos vases d'argile pourra enfin se répandre. L'apôtre Paul enseigne ce principe dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 7 à 12, où il est dit « Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Nous sommes abattus, mais non perdus. Nous portons toujours avec nous, dans notre propre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus-Christ se manifeste dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous, mais la vie, elle agit en vous. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul commence par reconnaître que nous portons un trésor dans nos vases, c'est-à-dire que nous portons la vie même de Christ. Il décrit ensuite les pressions endurées alors que chaque jour il a été persécuté, mais pas complètement abandonné. Il a été abattu, mais il n'a pas été tué. L'apôtre Paul nous montre ainsi le but divin de Dieu lorsqu'il permet ses pressions contre son âme. C'était afin que la vie de Jésus puisse être manifestée totalement, qu'elle puisse paraître dans ce vase de terre. Chers amis, nous avons chacun d'entre nous Christ en nous par le Saint-Esprit. Nous nous abreuvons de cette présence et nous pouvons puiser en elle, et c'est vrai, nous pouvons puiser en elle la vie. Mais nous en sommes seuls les bénéficiaires, et cela à moins que cette vie ne soit libérée, c'est-à-dire extériorisée, pour que d'autres autour de nous puissent en être nourris. Ou bien cette vie est enfermée à l'intérieur de nous, ou bien elle est répandue autour de nous. C'est pas pareil. Dieu libère sa vie en nous par le moyen de notre humilité ou par le moyen de notre brisement. J'ai dû être brisé totalement pour enfin avancer encore dans la sainteté de Dieu. Les hommes et les femmes non brisés sont pas beaucoup, voire même peu utilisés pour Dieu. Car quoique ils portent ces trésors en eux, ils ne portent pas de fruits. Le fruit que l'on produit, il résulte de notre brisement. Car lorsque nous sommes brisés, écoutez bien, la gloire de Dieu en nous se répand à travers les craquelures de nos vases. Voyons ce que nous dit l'apôtre Pierre dans 1er épître de Pierre, chapitre 4, versets 12 à 14. Il dit, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Bien au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances de Christ. Vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. De leur part, il est blasphémé, mais quant à vous, il est glorifié. » Alléluia. Une sérieuse question. Quand l'Esprit de gloire se repose-t-il sur nous? Eh bien, c'est lorsque nous sommes sous la persécution. Ce repos de la gloire sur nous indique qu'elle fait sa demeure en nous. C'est une sorte de Gethsémané pour le peuple de Dieu. Gethsémané signifie pressoir à huile. Une olive contient de l'huile précieuse et vitale pour l'homme, mais tant qu'elle n'est pas pressée, l'huile n'est pas répandue, donc il n'y a pas de bénédiction pour les autres. L'huile que contient l'olive est une image, vous avez bien compris, c'est une image du Saint-Esprit. Que voulons-nous dire par cela? Nous voulons dire qu'il y a plus de 2000 ans, Jésus-Christ a été pressé et brisé et le Saint-Esprit s'est répandu glorieusement sur l'Église. Quand l'Église est pressée et brisée, le Saint-Esprit se répand vers les nations. Tous ces peuples, toutes ces races et toutes ces langues, ces peuples que l'apôtre Jean voyait, ils étaient rassemblés devant l'agneau. La pression et la persécution sur le peuple de Dieu, cela libère sur eux une plus grande gloire. Le monde entier verra l'Église dans sa gloire, et cela pendant un bref laps de temps précédant l'enlèvement. Pendant un instant final et victorieux, les habitants de la terre verront Christ en tant que roi sur l'Église. Dieu a promis à l'Église dans Joël, chapitre 2, verset 25, qu'il lui restaurerait ses années perdues. Tout ce qui a été perdu pendant des années de somnolence lui sera restitué. Puis l'Église glorieuse sera enlevée en son époux. Mais en ce qui concerne ces nations, en ce qui concerne ces langues et ces peuples, oui, qui les rassemblera? Comment cela s'accomplira-t-il? Les nations viendront enfin à la lumière. Ésaïe 60 nous informe que l'Éternel se lèvera sur toi et sa gloire sera vue sur toi. Et les nations marcheront à ta lumière et les rois à la splendeur de ton lever. Versets 2 et 3 de Ésaïe, chapitre 60. Ce que l'Église a omis, n'a pas dit d'accomplir, elle a omis cela. Et cela en plus de 2000 ans, eh bien, l'Église l'accomplira à l'heure de sa gloire. Les peuples verront la vie de Dieu, de cette vie de Dieu qui va se manifester, et ils se réfugieront auprès de sa lumière pour en bénéficier. Cela viendra quand les ténèbres seront particulièrement épaisses et les bouleversements rudes. Le brisement a pour but la libération de la gloire. C'est pour eux, c'est pour ces gens assis dans les ténèbres et la douleur que nous devons, vous et moi, nous laisser briser. Y sommes-nous prêts? C'est une question délicate. Les 300 de Gédéon, ce sont une image pour nous. Juges, dans le livre des Juges, au chapitre 7, on nous donne une illustration de cela avec le récit de Gédéon et de ses 300 soldats. Souvenez-vous, on donna à chaque homme une cruche dans laquelle brûlait une torche. Au moment propice, au milieu de la nuit, les hommes brisèrent leur cruche et la lumière qui se trouvait à l'intérieur se répandit dans la nuit. L'ennemi avait tellement peur que dans le désordre qui s'en est suivi, qu'ils se sont même entretués entre eux. Les 300 de Gédéon ont poursuivi ceux qui survécurent jusque dans un endroit qui est appelé le pré de la danse, Abel Mehola. Le combat se termina donc dans un lieu de danse. Et nous serons comme ces 300 soldats si nous suivons Jésus-Christ. Nous ferons peut-être l'expérience d'un type de Gethsémané. Je voudrais dire que pour Christ, comme pour chacun d'entre nous, cette expérience ne nous est pas imposée, mais elle est volontaire. Chaque véritable Gethsémané est vécu de notre plein gré. Nous devons le choisir pour le vivre, comme Jésus, qui, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix. Eh bien, nous, vous et moi, nous devons avoir une vision. dans le livre des Juges au chapitre 7, chaque homme brisa sa propre cruche. Nous devons donc veiller à ce que seule la gloire de Dieu puisse paraître dans notre brisement. Lorsque nous aurons la révélation de cela, nous serons prêts à aller jusqu'au bout avec Christ. Ce sera la plus grande des manifestations de Dieu. Son résultat sera le plus grand réveil que le monde ait jamais connu. Dieu fera les plus grands miracles et son peuple atteindra son plus haut niveau de sanctification. Il y aura la plus grande victoire sur le péché et nous ressentirons la plus grande joie. Tout cela sera le résultat direct de la grandeur de Dieu au milieu de son peuple. Chers amis, voici un merveilleux témoignage d'une missionnaire. C'est un témoignage hors du commun. Dieu s'est révélé à une femme musulmane. Cette rencontre de nos yeux ressemblait à un choc électrique que je ne peux pas expliquer. Le regard de la vieille femme me transperçait le visage. Qui voyait-elle? Je ne le sais pas. Tout à coup, elle commença à trembler et tout à coup, elle se mit à sangloter. Alors, elle s'approcha de moi et elle prit mes mains dans les siennes et les couvrit de baisers. De façon surnaturelle, Jésus travaillait son cœur et son esprit. Son amour pour cette âme se manifestait au travers de mon être, de mon cœur et esprit, là où il réside, et se révélait donc à elle, à cette femme âgée, de façon tangible. Elle était bouleversée. Savait-elle qui lui tendait la main? Elle ne savait pas que j'étais une servante de Christ, une missionnaire. Elle ne le savait pas. Mais elle doit savoir que c'est sûrement toi, Seigneur, car je priais intérieurement, intensément. Je disais au Seigneur, révèle-toi de façon à ce qu'elle sache que tu es vivant et que tu l'aimes. Je pleurais avec elle. Ô Seigneur, je suppliais à voix haute, car elle ne parlait pas l'anglais, et je disais, sauve-la maintenant. Attire-la à toi. Fais quelque chose dans cette vie. Fais-le aujourd'hui, ô Seigneur. Que devons-nous penser de telles étranges rencontres, si soudain, si puissante et si manifestement? Ça, c'est vraiment un acte de Dieu. D'une façon que je ne peux absolument pas expliquer, Dieu s'est révélé à cette vieille femme arabe. Que s'est-il passé? Je l'ignore, mais je sais que c'était un acte souverain de Dieu. Dieu le Père, par son Fils Jésus-Christ, lui donna quelque chose de lui, comme une caresse sur une longue et triste vie. des vagues de l'océan de son amour déferlèrent sur elle, par la puissance du Saint-Esprit, faisant fondre son cœur. Mais dans tout cela, moi, la missionnaire, la servante, l'esclave de Christ, je n'étais que son instrument, car tout venait de Dieu et rien venait de moi. Je me demande si une telle rencontre a porté du fruit durable. Je n'en ai pas la réponse, mais je sais une chose, que celui qui l'a touché si profondément dans ce bus ne se reposera pas tant que son salut n'est pas accompli. Je crois fermement que la gloire de Dieu se manifestera ainsi de plus en plus. Chers amis, je termine cette étude par le prophète Ésaïe. Il dit, « Sur toi se lèvera l'Éternel et sa gloire sera vue sur toi. Puis les nations viendront vers toi. » Ésaïe chapitre 60. Cette gloire sera-t-elle visible ou simplement sera-t-elle ressentie par les gens? Je crois, chers amis, que le moment approche où Dieu se manifestera lui-même sur cette terre. Les gens le verront tel qu'il est. On ne lui résiste pas. D'un grand coup rapide et glorieux du Saint-Esprit, Dieu rassemblera de toutes les nations une multitude pour lui. Mais dans tout cela, nous devons, vous et moi, simplement être ces vases de terre, oui, ces instruments soumis à lui. Dieu verra ces gens, chacun individuellement, et il les regardera au travers de nos yeux. Son amour pour ces âmes, profond et puissant, comme un océan. Cet amour se manifestera d'abord dans nos propres cœurs, à vous et à moi. Son onction qui les sauve, qui les guérit, qui les délivre, nous touchera en même temps qu'elle les touche. Nous serons en tout ce qu'il fait. Qu'est-ce que nous serons? Eh bien, nous serons ses co-ouvriers. Nous serons soumis et nous serons paisibles. Ce que je veux dire, c'est que nous serons là. Oui, nous serons témoins des faits. Mais lui, notre Sauveur et Seigneur, lui seul fera les œuvres. Oui, son repos est glorieux. Amen. Et chers amis, nous allons terminer par une simple prière. Prions maintenant. Ô Dieu, toi qui nous as enseigné que le comble de la liberté était pour nous l'accord de nos volontés avec la tienne, aide-nous à conquérir cette parfaite liberté par une continuelle soumission à toi, de sorte que nous puissions suivre le chemin que tu nous as préparé et de la sorte que nous puissions donner un sens à notre vie. Et nous le demandons par le saint nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et nous allons continuer des choses extraordinaires. Vous pouvez me croire parce que j'ai reçu dans le cœur de le faire, vu les temps que nous vivons actuellement. Alors, je vous demande d'avoir assez d'humilité et de laisser tout orgueil de côté et d'essayer, tout simplement. Même si vous ne comprenez pas tout ou si vous n'êtes pas d'accord avec tout, eh bien, simplement, humblement, d'écouter la suite de ces études, s'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse richement. Au revoir. Et à demain matin, Dieu voulant.